Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'Agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Le Beaulieu, directeur d'ADRA Belgium. Bonjour.
Bonjour.
Alors ADRA, je rappelle que c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Jonathan Le Beaulieu, lors de l'été dernier, la Belgique a vécu de graves inondations. Vous aviez alors répondu à mes questions en direct depuis un site, celui de Verviers, où il y avait eu de graves conséquences. Vos équipes étaient sur place aussi, vous étiez en pleine intervention. Vous pouvez nous dire aujourd'hui où on en est par rapport à cette situation, parce que les inondations ont eu lieu en été, mais j'imagine que la remise en état des maisons et du quartier prend du temps, évidemment.
Oui, tout à fait. Il y a encore un niveau de destruction important sur place. Et on a par exemple les conduites de gaz qui ne sont pas encore totalement réparées. Donc il y a beaucoup de foyers qui se chauffent avec des radiateurs électriques, mais qui n'ont plus accès en tout cas au gaz. Ils annoncent normalement la réparation pour la fin de l'année. Donc là, ça ne saurait tarder, mais ça fait quand même presque
6 mois,
depuis juillet. Mais oui, la situation sur place est toujours délicate, avec des gens qui ont même perdu leur maison, hein, qui sont relogés toujours chez des proches ou de la famille. Et il y a eu des conséquences aussi entre guillemets inattendues, c'est-à-dire que même les maisons qui n'étaient pas emportées par les eaux, hein, parce que c'est ce qui s'est passé là-bas.
Certaines maisons ont été emportées complètement.
Oui, complètement. Oui, le quartier, notamment dans Zival, et aussi la commune à côté de Pépinster, il y a des quartiers entiers qui ont glissé, en fait, hein, dans la Vesdre. Les courants étaient tellement forts que rien n'a tenu. Donc ces maisons, ben, voilà, elles sont détruites. Il y a eu malheureusement aussi des morts. Mais il y a aussi toute une série de maisons qui ont été complètement noyées et qui tiennent debout, mais qui ont énormément d'humidité et donc sont invivables, en tout cas en l'état. Et donc, nous, après le déploiement, presque 48 heures après les événements de nos volontaires, on a lancé en fait une phase 2, qui était une phase un peu plus technique, qui consistait en fait au déploiement de déshumidificateurs professionnels qui sont des appareils en fait branchés dans les maisons et qui absorbent l'humidité des murs et des sols et qui permettent au bout de quelques semaines, hein, parce que ça prend du temps, de réhabiliter finalement une habitation.
Donc ça se fait vraiment de manière efficace.
Oui, c'est très très efficace. C'est du matériel qui est utilisé, par exemple, quand il faut sécher des chapes de béton dans des immeubles. Ils utilisent ce genre de procédé. Et c'est des machines qu'on a pu avoir grâce à un soutien du réseau ADRA, et notamment d'ADRA Tchéquie, qui, pour le coup, eux, sont spécialistes en fait dans la gestion des inondations et ont à disposition plusieurs centaines de déshumidificateurs dont ils nous ont prêté en tout cas une partie. Et donc, en collaboration notamment avec les autorités de la ville, nous avons mis à disposition justement ces déshumidificateurs qui sont déployés à travers les zones les plus sinistrées.
Et qui sont encore en service aujourd'hui ?
Tout à fait, jusqu'au 10 janvier. Donc pour l'instant, on a plus ou moins 300 foyers, donc 300 habitations qui ont pu être traitées. Mais il faut savoir que ça dure plusieurs jours, hein, pour enlever toute l'humidité. Et en fonction de combien de temps l'eau est restée dans l'habitation, je veux dire, le traitement prend plus ou moins de temps également. Donc ça, c'était une phase un peu plus technique. Donc on n'avait plus des volontaires. On a laissé vraiment les équipes locales techniques de la commune prendre le relais.
Qui n'étaient pas équipés?
Pas du tout. Non, mais personne n'était équipé pour ce genre de problème. Non seulement les machines, en fait, il y a eu pénurie très très rapidement sur le territoire belge, mais en plus elles étaient à des prix absolument impayables pour des communes, hein, les communes qui ont déjà très peu de moyens. Alors vous imaginez, vous devez payer une machine 5000 euros et il vous en faut plusieurs centaines. Ça devient très très compliqué à gérer pour une utilisation qui reste, on l'espère, exceptionnelle, mm-hmm. tout à fait. Donc ça, c'est un dégât collatéral finalement de ces inondations. Un autre dégât collatéral a été pour les enfants, puisque à la rentrée de septembre, il y a plus ou moins 2500 enfants qui se sont retrouvés sans matériel scolaire.
Tout était parti avec la maison.
Tout à fait. Ouais, mm-hmm. Tout était parti parce que même si les maisons tiennent debout, bah, quand toute votre habitation est remplie d'eau, une partie de vos biens sont emportés par les flots, par les courants. Et ce qui vous reste est inutilisable. Des cahiers, imaginez des cahiers sous l'eau, imaginez des billes, des crayons, enfin tout ça devient inutilisable.
Donc il faut tout racheter.
Il faut en effet tout racheter. Donc ici, avec des associations locales, on a lancé une opération qui s'appelle l'opération Plumier Solidaire, qui en fait, dès le début septembre, a permis justement à 2500 enfants d'avoir le minimum, en tout cas, pour envisager sereinement la rentrée scolaire.
Toujours dans ce quartier de la ville de Verviers ?
Alors, c'est plus qu'un quartier. On a travaillé là, pour le coup, sur un arrondissement.
Donc, d'accord.
Les déshumidificateurs également. Donc, c'était pas seulement ce quartier-là, mais c'était toute la zone. Donc, c'est plusieurs communes, en fait, réunies. C'est un arrondissement, donc avec plusieurs communes. Et à chaque fois avec le souci de travailler sur les zones les plus touchées et auprès des personnes les plus impactées par la catastrophe. Donc ici, c'était 2500 enfants de la zone, voilà, de tout l'arrondissement qui représentait 5 à 600 000 habitants. Donc on est sur une zone quand même relativement importante en Belgique.
5 à 600 000 ?
Oui, oui.
Ah oui, c'est une zone peuplée.
C'est une zone peuplée, oui, tout à fait. C'est des villes hein, qui ont été touchées. Alors, c'est pas 600 000 personnes qui ont été impactées. Hein, c'est des zones.
C'est la zone.
Voilà, c'est une zone de vie, en tout cas, assez dense. Ouais, ouais, c'est des villes assez densifiées. Et les zones qui ont été touchées, en général, c'est des quartiers, ben voilà, qui sont un peu en contrebas. Souvent des quartiers de logements sociaux, des quartiers un peu plus populaires. Donc voilà, c'est des gens qui n'avaient pas besoin de ça, qui étaient déjà en difficulté avant la catastrophe et qui sont dans une situation encore pire après, évidemment.
Donc, fourniture scolaire.
Tout à fait.
Pour reprendre l'année à partir de septembre.
Exactement, donc ça a été fait, hein, ça c'est terminé. Les déshumidificateurs, eux, vont jusqu'à janvier. On a vraiment laissé une période relativement longue pour que un maximum de maisons puissent être traitées. Et la quatrième et dernière phase, qui est une toute nouvelle phase, enfin qui a été lancée il y a 3 semaines, à la demande finalement de nos volontaires qui ont été actifs dès le début sur le terrain, c'est de dire, ben voilà, on a une opération Colis de Noël réalisée par ADRA chaque année, et une partie des colis finalement, est-ce qu'on pourrait pas les distribuer auprès des enfants des zones touchées. Et donc voilà, nos volontaires faisaient cette demande-là, on a trouvé la demande totalement adéquate et ça rentrait bien voilà dans notre action d'urgence. Et donc encore une fois avec la collaboration des autorités et de certaines associations locales, on va distribuer ici plus ou moins 200 colis. Donc c'est des boîtes avec
Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ces colis?
Ah, c'est ça qui est
intéressant. C'est un secret ou...
Non, pas du tout.
Ou on peut le savoir.
Pas du tout. Donc ces colis sont faits à chaque fois par des familles hein de nos volontaires, elles peuvent mettre a priori ce qu'elles veulent dedans, mais en suivant 5 catégories qui sont, il faut qu'il y ait au minimum un jouet, au minimum une friandise, au minimum un vêtement, au minimum une catégorie hygiène et une catégorie scolaire. Donc voilà, c'est un élément de chaque catégorie pour que les colis soient plus ou moins standards. Ça doit être des éléments neufs ou en très très bon état. La boîte peut être décorée par les enfants. Donc voilà, c'est l'occasion aussi pour les enfants d'appréhender un peu la solidarité aussi, hein, finalement.
Mmh, bien sûr. Donc en fait, une belle idée. Et avec cette période de Noël, ben, c'est tout à fait à propos.
Voilà.
Merci beaucoup, Jonathan Lobulio, d'être venu nous parler de la situation suite aux inondations de l'été dernier. C'était Parole Solidaire, une émission sur les solidarités internationales. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres sujets. Vous nous parlerez peut-être de votre concept de food truck lors d'une émission prochaine.
Pourquoi pas.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
À bientôt.
Is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
felt your presence near. I've walked in the garden and found you waiting there. I've stood with the masses to lift my hands in praise. I've knelt there all alone and called your name. Yet today, I'm just not sure of what I should say. I am empty, you are holy. Come and fill my soul with who you are. In my silence, you still hear me. In the quiet of this moment, I am heard. I'm overwhelmed and at a loss for words. I've cried in my weakness for strength to just believe. I searched for a reason that you would die for me. How could the Lamb of Glory choose to take my place? With open arms of love, offer grace. Still today, I'm just not sure of what I should say. I am empty, you are holy. Come and fill my soul with who you are. In my silence, still hear me. In the quiet of this moment, I am heard. I'm overwhelmed and at a loss for words. You are holy, you are worthy. The blessed Son of God, the morning star.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la Voix de l'Espérance et vous êtes en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de nous adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. En ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193 Damary-Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte.
touche le plus quand on parle de ma peinture, c'est quand les gens reconnaissent quelque chose que j'ai fait ou apprécient une image ou une autre. Parce que si je peins, ce n'est pas pour moi, c'est pour que les gens puissent voir quelque chose.
On sort ses pinceaux aujourd'hui dans C'est vous l'histoire pour vous conter celle d'une artiste peintre pas comme les autres. Françoise Vitchy est non-voyante et peindre, lorsqu'on ne voit pas, c'est une véritable aventure. Pour Françoise, un trait d'union, un échange avec les autres. Elle se raconte au micro de Christine Raymond.
Françoise Vitchy, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Je viens du sud de la France. Je réside ici en Suisse et j'habite depuis mon mariage dans cette région viticole. Je suis venue d'une région viticole dans une autre région viticole. Et j'aime beaucoup la peinture. J'aime aussi beaucoup l'écriture et communiquer avec les gens qui m'entourent. J'aime créer des liens pour créer de la vie.
Et vous enseignez l'anglais aussi ?
J'enseigne l'anglais en privé chez moi et aussi parfois à des groupes, lorsqu'il y a des groupes qui s'annoncent dans le cadre de la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants dans la région, pour des aveugles et des malvoyants qui, comme moi, ont besoin de cours plus particulièrement adaptés. C'est surtout des cours de conversation où, en général, il y a une bonne ambiance.
Françoise, vous vous êtes lancée dans la peinture, mais comment est-ce qu'on fait à peindre quand on ne voit pas ? Comment est-ce qu'on s'y prend pratiquement ?
J'aurais un peu tendance à vous dire, comme n'importe qui d'autre, avec des crayons, des couleurs et des pinceaux.
Au niveau des outils, ouais.
Oui. Et puis, en apprenant à évaluer la feuille ou la toile qu'on a devant soi, en apprenant à analyser l'espace, on arrive très facilement, enfin avec beaucoup de concentration, mais on arrive à se repérer dans l'espace une fois qu'on connaît un petit peu. C'est comme ça qu'on arrive à peindre. Quand on fait de l'aquarelle, on scotche la feuille sur sur une planche, pas pour avoir des repères, mais ça, tout le monde le fait pour pouvoir avoir une feuille qui sèche et qui reste plane. Sinon, la feuille, l'aquarelle va gondoler et puis ça ne va pas être très joli. Mais au début, pour bien faire ses repères, avant de commencer le dessin, on peut aussi coller des petites gommettes ou des petits repères sur la feuille qu'on enlève ensuite pour essayer d'évaluer la grandeur et essayer de voir comment on veut procéder pour mettre le sujet dans l'espace.
Alors à ce niveau-là, c'est vrai que nos auditeurs sont un petit peu dans la même situation que vous. On est sur pied d'égalité là, parce qu'on parle de tableaux qu'on ne voit pas en radio. Est-ce que vous pourriez nous décrire un de vos tableaux ?
Alors, je peux vous décrire un tableau. Disons, je ne peux pas vous le décrire. Je sais ce qu'il y a dessus, mais je ne pourrais pas vous le décrire exactement. C'est un tableau qui représente un grand bouquet de tulipes dans un vase et elle déborde sur le côté du vase et elle retombe le long du vase. Elles sont rouges et elles prennent tout le tableau avec leur vase. Mais je peux en dire ça, mais moi si je peins, ce n'est pas pour moi, c'est pour les gens qui viennent regarder. Et là, j'avais fait ce tableau-là avec un modèle, mais parfois je fais un peu de tête et je dois dire aussi que lorsque je peins, je ne peins pas toute seule. Je préfère être avec quelqu'un qui me dit si... Surtout lorsque je mélange des couleurs acryliques, lorsque je fais de l'aquarelle, je le fais souvent toute seule. Mais lorsque je fais avec des peintures qui demandent de mélanger les couleurs, je demande à quelqu'un de me dire si j'ai pas mélangé toutes les couleurs et que je ne me retrouve pas avec un tableau monochrome où on ne voit plus rien parce que c'est tout mélangé.
Vous l'avez dit, Françoise, vous êtes non-voyante, et cela depuis l'âge de 12 ans. C'était à la suite d'un accident, d'une maladie ?
C'était à la suite d'une maladie congénitale qui m'avait... Donc j'étais malvoyante, et cette maladie congénitale qui faisait que j'étais malvoyante, ça a évolué de telle sorte que j'ai perdu la vue lorsque j'avais 12 ans. Ça s'est fait assez vite, ça s'est fait en quelques mois, mais je me souviens très bien que c'était une période où je devais changer d'école, justement parce que ma vue évoluait dans un sens qui n'était pas favorable. Donc j'étais à l'école de mon quartier et il a fallu chercher une école spécialisée dans laquelle on pouvait m'accueillir. Mmh. Je suis donc partie à la rentrée des classes. Là, je voyais encore un petit peu et j'ai vu une petite fille qui écrivait en braille et je me suis dit, oh, alors ça, moi, jamais. Et 4 semaines plus tard, c'est moi qui allais aussi chez le professeur de braille 2 fois par jour pour apprendre le braille et pouvoir continuer à étudier.
J'ai entendu dans une interview de vous, il n'y a pas très longtemps, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de parler du fait que je ne vois pas. On vous sent, dans cette petite phrase, très désireuse d'emmener les gens au-delà du handicap.
Oui, parce que moi, j'ai un handicap qui est plus ou moins visible. C'est pas le... Disons qu'on va peut-être plus remarquer quelqu'un qui a des cannes anglaises ou un fauteuil roulant. Ça va peut-être être plus évident d'évaluer le degré de handicap. Mais j'ai un handicap qui est quand même sérieux. Et puis, on a tous des différences. Si on rencontre des gens, si on prend le temps d'écouter. Et moi, j'ai toujours fait ça. Depuis que, même quand j'étais adolescente, je prenais souvent le train. Les gens venaient s'asseoir à côté de moi et me parler de leur vie. Et on se rend compte que dans la vie de chaque personne, il y a des particularités. Donc, si on veut vivre pleinement, on doit aller au-delà des particularités. On doit pouvoir aller de l'avant. Sinon... on n'est pas vivant et on doit faire tout notre possible pour développer nos aptitudes.
Françoise Vichy ose l'ouverture et la rencontre. Retour auprès d'elle pour parler cette fois-ci de sa foi chrétienne, une foi présente déjà très tôt dans son enfance.
J'ai toujours été très proche de Dieu. J'ai toujours eu une foi que je ne pouvais pas exprimer lorsque j'étais enfant parce que ça, c'était vraiment très ancré en moi. Et c'est petit à petit que, lorsque j'ai perdu la vue, je me suis rendu compte que je me suis remis vraiment à ce Dieu que j'essayais d'apprendre à connaître petit à petit.
Mais vous en aviez déjà entendu parler de Dieu à ce moment-là, ou vous le perceviez quelque part?
Oui, j'ai été élevée dans une famille chrétienne et qui m'a permis d'avoir cette foi qui a grandi en moi. Et c'est petit à petit... au cours de mes diverses rencontres et lorsque j'étais étudiante à l'université, j'ai rencontré des groupes d'étudiants qui se retrouvaient autour de la Bible et qui pouvaient être ensemble et réfléchir, prier. Et c'est ce qui m'a vraiment aidée à m'ancrer plus dans la foi chrétienne.
En parlant de Dieu, on dit que la foi, c'est une question de croire en ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne voit pas encore. Comment ça vous parle, cette phrase-là?
C'est vrai, c'est vraiment presque pour moi une chose qui est quotidienne. C'est quelque chose qui revient tout le temps parce que dans tout ce que je fais, même si je ne pense pas que je ne vois pas, c'est clair que c'est une réalité pour moi. Je ne vois pas et c'est peut-être ce qui m'aide à aller de l'avant, c'est que je sais que c'est pour aller vers un monde meilleur. Croire que c'est toujours quelque chose qui peut être réjouissant quand même.
Dieu, comment est-ce que vous le voyez, si je peux utiliser le terme voir?
Comme comme c'est une entité qui est là pour nous, qui veille sur notre vie et qui permet que dans nos épreuves, nous ayons les forces de tout affronter.
Vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.iebc.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.